C'est l'heure du journal, Stéphane Place.
Nous ne devons avoir qu'une obsession. Être unis pour combattre le virus.
Un appel à l'union face à l'épidémie, c'est l'image forte de la journée. Un masque de protection sur la bouche. Emmanuel Macron s'est rendu à Mulhouse aux côtés des soignants et des militaires. Le chef de l'État a fait plusieurs annonces. Le détail dès le début de ce journal avec Jean-Rémy Baudeau. Les services de soins alsaciens débordés, les hôpitaux de Paris qui appellent à l'aide. Le patron de l'AP-HP réclame la réquisition de personnel soignant supplémentaire. Un nombre de décès qui n'est pas exactement connu, mais des cas de contamination qui se multiplient dans les EHPAD, nous dira Roman Hoquet. Grièvement blessé pour avoir voulu faire respecter le confinement, une jeune policière de Beauvais à l'hôpital après avoir reçu une brique au visage.
Les pompiers l'ont emmené à l'hôpital pour être opéré dès son arrivée pour un œdème crânien, mais également une fracture du crâne.
Dans ce journal, nous reviendrons sur les 25 ordonnances, un record sous la 5e République, adoptées par le Conseil des ministres pour faire face à cette crise sanitaire. Nous irons aussi en Espagne, où le nombre de morts causés par le Covid-19 dépasse désormais celui qui a été enregistré en Chine.
Le drame, c'est que ce sont 3000 personnes qui ont besoin d'aide. Donc, il faut faire un tri parce qu'on n'a pas 3000 respirateurs.
Les prévisions météo, ce sera avec Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Le point sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Sans oublier, comme chaque soir, l'interview écho d'Emmanuel Duteil, qui reçoit ce soir Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire. Europe 1. Alors que le bilan ce soir en France fait état de 1331 morts à cause du Covid-19, 231 nouveaux décès en 24 heures, Emmanuel Macron, je vous le disais, un masque de protection sur la bouche, s'est rendu à Mulhouse, au chevet du Grand Est, région durement touchée. Le chef de l'État venu manifester, Jean-Rémy Baudeau, son soutien aux soignants alsaciens en première ligne et aux militaires engagés à leur côté. Le président de la République a également fait plusieurs annonces.
Plusieurs annonces avec de nouveaux moyens. D'abord à court terme, les heures supplémentaires des personnels soignants et des fonctionnaires mobilisés seront majorées sous forme d'une prime exceptionnelle. On en ignore pour l'instant le montant et les modalités. Mais Emmanuel Macron a surtout promis du long terme, une manière de penser au-delà de la crise actuelle. Le chef de l'État a promis, je cite, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières à l'hôpital. Il parle d'une réponse profonde et dans la durée. Emmanuel Macron qui a surtout fustigé ceux qui, en politique comme dans la société française, jouent, selon lui, la division.
Je vois dans notre pays les facteurs de division, les doutes, toutes celles et ceux qui voudraient aujourd'hui fracturer le pays, alors que nous ne devons avoir qu'une obsession, être unis pour combattre le virus. Et j'en appelle à cette unité, à cet engagement.
Voilà, combattre le virus, la guerre, on est toujours en guerre, a rappelé le chef de l'État. Et parmi les annonces les plus marquantes, il y a l'opération Résilience. Voilà le nom donné à cette mobilisation de l'armée à l'approche du pic qui se profile. Aide et soutien à la population, appui dans les services publics en métropole et en outre-mer. Deux porte-hélicoptères seront notamment positionnés dans l'océan Indien et dans les Antilles.
Merci Jean-Rémy Baudeau. Et ce soir, pour soulager les services de soins alsaciens saturés, le TGV médicalisé, une première en Europe, est arrivé en gare de Strasbourg, d'où il repartira demain matin pour évacuer 20 patients vers des hôpitaux des Pays de la Loire. Le cri d'alarme du directeur général de l'assistance publique hôpitaux de Paris, l'AP-HP, alors que plus de 1000 malades graves du Covid-19 sont désormais hospitalisés en réanimation en Île-de-France, Martin Hirsch demande, à ce moment charnière de la crise, des renforts. Simon Rubin, Martin Hirsch n'est pas le seul à lancer cet appel à l'aide.
Effectivement, Rémi Salomon, le représentant des médecins de la PHP, donc en Île-de-France, a lancé un appel similaire. Un numéro et une adresse mail ont été mis en place pour le personnel médical et paramédical souhaitant se porter volontaire en Île-de-France. C'est renfort au pluriel, -soignant au pluriel, @aphp.fr. Déjà plus de 10 000 candidatures enregistrées. Les régions touchées ont besoin de soignants. Et ailleurs aussi d'ailleurs, parce qu'on se prépare. Un peu partout, on cible les personnes suivantes. Alors les retraités du monde médical, mais ça c'est plutôt risqué puisqu'il s'agit d'un public fragile. L'appel a aussi été lancé aux professionnels du paramédical. Les hôpitaux de proximité sont également mobilisés pour pallier le manque de lits et de personnel des CHU. Et puis les étudiants de dernière et avant-dernière année de médecine sont mobilisés. Alors là, dans ce cas-là, c'est surtout utile là où l'épidémie est encore assez faible pour faire souffler les équipes en prévision de la vague à venir. C'est le cas par exemple au CHU de Toulouse. Parce que, bien sûr, on parle des masques, des lits, des respirateurs, mais la grande bataille à venir pour le monde hospitalier, c'est les effectifs. Avoir assez de professionnels pour faire face, d'autant que l'afflux de patients va durer. Il ne s'agira pas de tenir un ou deux jours, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et c'est le grand défi à venir.
Les précisions de Simon Rubin. Nous vous en parlions dès hier soir. Les résidences pour personnes âgées, les EHPAD, sont cruellement frappées par le coronavirus. Les cas se multiplient, les décès aussi. Et les familles, comme le personnel, s'inquiètent de plus en plus, Romain Nocquet, en ayant, là encore, le sentiment de ne pas être suffisamment armés pour affronter l'épidémie.
Oui, tous les établissements n'ont pas reçu les dotations minimales préconisées par le ministre, à savoir 5 masques par lit et par jour. C'est le cas de cet EHPAD de Charente, plus aucun masque FFP2. Evelyne, infirmière, et les 18 salariés ont donc décidé de se confiner avec les résidents pour éviter toute contamination.
On n'a pas de matériel suffisant. On ne peut pas appliquer de façon correcte les préconisations des autorités sanitaires. Mais nous, sur le plan humain, on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire qu'on s'engage à vivre avec nos résidents et à les protéger. Je ne veux pas être responsable d'une épidémie dans mon établissement.
Un huis clos comme un dernier recours pour tenter d'échapper au virus. Pour d'autres établissements, c'est déjà trop tard. En Île-de-France, l'une des régions les plus touchées, 20% des EHPAD hébergent des résidents contaminés. Dans le Grand Est, le virus aurait déjà pénétré dans la majorité des établissements, selon nos informations. Dans les Hauts-de-France, c'est un peu plus de 4% des EHPAD concernés et 1,5% pour la région Pays de la Loire. Un bilan probablement sous-estimé. Tous les résidents qui présentent des symptômes ne sont pas systématiquement testés, sans parler de la difficulté à confiner des personnes âgées. Une infirmière nous explique, beaucoup n'ont plus toute leur tête, ils se trompent de chambre, se baladent dans les couloirs. Forcément, on s'attend au pire.
Merci Romain Nocquet. Vous pouvez retrouver cette enquête sur notre site internet europe1.fr. La durée du confinement précisée dans les prochains jours, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye. Hier, le conseil scientifique de l'exécutif a préconisé un confinement d'au moins 6 semaines au total, ce qui nous conduit à la fin avril, mais il ne s'agit là que d'un avis. Faire respecter le confinement, pas toujours simple pour les forces de l'ordre et même parfois dangereux. Hier, alors qu'ils s'apprêtaient à contrôler des attestations de déplacement dans la cité de la Roseraie à Beauvais, des policiers ont été visés par des jets de projectiles. L'un d'eux a atteint et blessé Floriane, une jeune adjointe de sécurité, touchée à la tête. Cette policière de 23 ans est encore hospitalisée après son opération, mais elle n'est plus en danger. Son collègue, Frédéric Ducouroy, délégué syndical du syndicat Alternative Police, était avec elle quand le contrôle a dégénéré.
On avait reçu un appel pour procéder au contrôle d'un groupe d'une dizaine de personnes qui ne respectaient pas la mesure de confinement, donc avec de la musique, de la consommation d'alcool sur la voie publique. Le contrôle s'est avéré un peu houleux, hostile à l'intervention de la police. Et à ce moment-là, il y a eu un premier jet de pavé, une demi-brique, que ma collègue Floriane a pris au niveau du crâne. J'ai vu qu'elle vacillait, donc je l'ai portée, je l'ai mis à l'écart derrière une voiture pour les premiers soins. Les pompiers l'ont emmenée à l'hôpital pour être opérée dès son arrivée pour un œdème crânien, mais également une fracture du crâne. Elle le prenait sur le visage ou à un autre endroit du crâne. Je ne sais pas si elle m'aurait envoyé un message ce matin pour me dire qu'elle se sentait bien. Dans ses messages, elle est impatiente de revenir dans la police, donc là on lui a dit de se reposer, mais elle reviendra auprès de nous.
Frédéric Ducouroy du syndicat Alternative Police répondait à Marion Dubreuil pour Europe 1. Et manifestement, tout le monde n'a pas compris le principe du confinement. Dans le Nord, le maire de la Madeleine a décidé de retirer les bancs publics de la commune. Ces derniers jours, malgré le confinement, des gens venaient s'y asseoir pour prendre le soleil, discuter. Le calendrier des audiences devant les tribunaux complètement bouleversé. Prévu début mai, le procès des attentats de janvier 2015 perpétrés à Charlie Hebdo, Montrouge et à l'Hypercacher est reporté. Il pourrait se tenir à l'automne. C'est un effort long auquel nous allons tous faire ensemble face. Déclaration d'Édouard Philippe, le chef du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres ce matin. Conseil des ministres, et c'est un record depuis l'instauration de la Ve République, qui a adopté 25 ordonnances, des aménagements de la loi placés sous le signe de l'urgence pour soutenir en particulier les entreprises. Ordonnances qui s'appliqueront, Adrien Becht, dès vendredi.
Oui, un nombre d'ordonnances assez exceptionnel pour tenter de répondre à l'urgence économique. Une partie du pays à l'arrêt, de nombreuses entreprises, notamment les plus petites, qui ne tournent plus. L'exécutif craint des faillites en cascade, d'où ce fonds d'aide d'1 milliard d'euros, les loyers, factures d'eau, d'électricité qui pourront être reportées. Édouard Philippe l'a dit, la période s'annonce difficile pour l'économie.
Nous ne sommes qu'au début de la crise et le président de la République a demandé à nouveau aujourd'hui au gouvernement de prendre tous les moyens nécessaires dans la durée. Je le dis donc simplement aux Français, c'est un effort long que nous nous préparons et auquel nous allons tous ensemble faire face.
Et parmi les autres textes pris ce matin, la prolongation des minima sociaux pour ceux qui arrivent en fin de droit. L'exécutif fait aussi sauter des verrous sur le droit du travail avec la possibilité dans certains secteurs de travailler jusqu'à 60 heures par semaine et l'assouplissement de la règle du repos dominical. Des dispositions bien sûr transitoires qui prendront fin en même temps que l'état d'urgence sanitaire.
Adrien Beck du service politique d'Europe 1. Et puis j'ajoute que le Premier ministre a annoncé devant le Sénat tout à l'heure la mise en place d'un pont aérien via des avions cargo entre la France et la Chine pour faire venir les millions de masques de protection commandés. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, la garde des Sceaux, elle, a exposé plusieurs mesures d'exception, plusieurs mesures d'exception pour désengorger les prisons françaises. Une simplification des procédures devant permettre la libération de 5 à 6 000 détenus avec donc davantage de mansuétude dans l'examen des demandes de réduction de peine ou de libération conditionnelle. 40 000 candidats prêts à venir en aide aux agriculteurs en quête de main-d'œuvre. C'est la FNSEA ce soir qui l'annonce. Le syndicat agricole explique que ces candidatures sont arrivées sur la plateforme en ligne permettant de s'inscrire. Hier, le ministre de l'Agriculture avait lancé un appel à celles et ceux n'ayant plus d'activité à cause de la crise sanitaire. Didier Guillaume les invitant à aider à la récolte des fruits et légumes. Pas d'accord avec la fermeture des marchés de plein air de sa ville. Le maire de Toulouse n'est pas content. Jean-Luc Moudenc ne comprend pas la décision préfectorale de laisser seulement 3 marchés ouverts sur 37 et il met la pression sur le préfet pour obtenir des dérogations quartier par quartier. À partir de demain, les transports en commun de la région parisienne seront fortement réduits, avec notamment la fermeture d'une cinquantaine de stations de métro et RER. Il n'y aura globalement plus de circulation à partir de 22h. Il s'agit, se justifie la RATP et la SNCF, de concentrer le personnel disponible dans les stations principales. Et puis, les aéroports de Paris l'ont annoncé aujourd'hui. Orly sera fermé temporairement à compter du 31 mars, conséquence de l'effondrement du trafic aérien, une baisse de l'ordre de 30% dans les aéroports parisiens. En Espagne, d'un jour à l'autre, le bilan s'alourdit. Le nombre de morts du coronavirus y dépasse désormais celui de la Chine. Henri de Laguérie, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Barcelone. Près de 3500 personnes ont succombé au Covid-19 de l'autre côté des Pyrénées, malgré des mesures draconiennes prises dans tout le pays.
Effectivement, même si l'industrie n'est pas complètement à l'arrêt, il n'y a pas eu de confinement par étape comme en Italie. Ici, d'un seul coup, le pays s'est fermé il y a 11 jours. Alors ce chiffre de 3500 morts est un nouveau coup de massue. Les hôpitaux sont au bord de l'effondrement et il y a plus de 3000 personnes en soins intensifs. Le système sanitaire ne peut pas y faire face, nous explique le médecin urgentiste Félix Dallojo.
Le drame, c'est que ce sont 3000 personnes qui ont besoin d'aide et désormais, on n'a pas ni le temps ni les moyens de les aider. Donc, il faut faire un tri absolument dur et difficile parce que on n'a pas 3000 respirateurs.
L'armée, elle, continue d'intervenir dans tout le pays. À Barcelone, des militaires ont construit un centre d'accueil pour les sans-domicile dans un hall au pied de la très touristique colline de Montjuïc. J'ai vu ce matin sur place des camions militaires, des tentes de l'armée, des centaines de lits construits à la hâte. L'image, je vous assure, est à peine croyable quand on sait que ce lieu accueille par exemple chaque année le Sonar, un festival de musique électronique. Écoutez le général Luis Martinez.
Notre unité a l'habitude d'intervenir lors de catastrophes naturelles, en cas d'incendie, d'inondation, de tempête de neige ou de séisme. Mais c'est vrai, le montage de ces tentes militaires se fait généralement hors d'Espagne. Là, c'est l'urgence qui nous guide.
Voilà, l'Espagne a commandé à la Chine pour 432 millions d'euros de matériel sanitaire. Cela comprend notamment 1,5 milliard de masques et 5,5 millions de tests rapides.
Henri de Laguérie, le correspondant d'Europe 1 en Espagne. Et puis cette information qui tombe à l'instant, la France va retirer ses troupes d'Irak où elle participait à des missions de formation en raison de la pandémie de nouveau coronavirus qui frappe donc durement notre pays. C'est ce que vient d'annoncer l'état-major français, rapatriement donc de ce personnel militaire de l'opération Chamal déployée en Irak, soit près de 200 hommes. Des mesures globales d'un peu plus de 1000 milliards d'euros pour faire face aux conséquences de la pandémie. C'est ce que vient d'adopter le Bundestag, le Parlement allemand, pour soutenir donc les entreprises, les salariés, le système de santé. Aux États-Unis, le montant est historique. Dans un pays dépourvu de filet de sécurité sociale, le Sénat américain doit en principe approuver ce soir, même s'il y a quelques atermoiements, un plan de relance de la première économie mondiale, mise à mal par la pandémie, d'un montant évidemment à l'échelle du pays. Xavier Yvon, vous êtes le correspondant d'Europe 1. Les Américains ne font pas les choses à moitié. On parle de 2000, on a presque du mal à le réaliser, de 2000 milliards de dollars.
Ah oui, c'est un chiffre vertigineux. 2000 milliards de dollars, c'est un alignement de 15-0 du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. C'est plus de deux fois plus que le plan de sauvetage lors de la crise de 2008. C'est un investissement digne d'un temps de guerre, a dit le patron des sénateurs démocrates. Alors la mesure la plus concrète, c'est que chaque Américain recevra dans sa boîte aux lettres un chèque du gouvernement de 1200 dollars sous condition de ressources, donc 2400 pour un couple, plus 500 dollars par enfant. Ça, c'est pour répondre à l'urgence que vivent de plus en plus d'Américains à mesure que l'économie est à l'arrêt. Ils perdent leur emploi. Or, la majorité d'entre eux n'a pas d'épargne et la moitié de la population vit quasiment au jour le jour. Pour faire face au chômage de masse qui se profile, le plan prévoit aussi d'étendre les droits au chômage, très limités aux États-Unis. Il y a aussi des programmes de prêts gargantuesques pour les PME et les industries et également une méga enveloppe de 280 milliards de dollars pour les hôpitaux et les services d'urgence. Alors normalement, le vote doit avoir lieu aujourd'hui au Sénat, demain à la Chambre. L'effondrement de l'économie, c'est, vous savez, la frayeur de beaucoup d'Américains, dont Donald Trump, qui le répète sans arrêt depuis quelques jours. Le remède ne doit pas être pire que le mal, comprenez. On ne peut pas détruire l'économie pour lutter contre le virus.
Xavier Yvon, le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. L'Union européenne veut déjà lancer la réflexion sur la crise du coronavirus pour en tirer les leçons. Dès demain, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union se réuniront par visioconférence pour revoir ensemble leur capacité de réponse en temps de crise. Au Royaume-Uni, c'est le fils de la reine qui a été testé positif au nouveau coronavirus. Le prince Charles présente de légers symptômes, mais l'héritier de la couronne britannique, âgé de 71 ans, reste en bonne santé, assure un communiqué. Nous vous en parlions hier soir, il a été décidé de ne pas annuler, mais de reporter les Jeux Olympiques de Tokyo, qui se dérouleront donc en 2021. Un choix qui n'est pas sans conséquence sur la préparation des sportifs, mais pas seulement. Aujourd'hui, le président du Comité international olympique a fait le point devant 400 médias réunis en audioconférence. Conférence que vous avez suivie pour nous, Corinne Boulou.
Oui, parce que c'est un véritable casse-tête pour le CIO et le Japon. C'est un travail de titan qui commence pour la Task Force Olympique qui s'est constituée aussitôt le report annoncé des Jeux de Tokyo. Ce groupe de travail renforcé va devoir se pencher sur une multitude de sujets qui vont des infrastructures à maintenir, notamment le village olympique, à la gestion des sites en passant par les qualifications d'athlètes. Sans compter qu'il faut évidemment trouver une nouvelle date à ces Jeux de Tokyo 2020, au plus tard à l'été 2021. Et ça n'est pas la moindre des tâches, comme la souligné ce matin l'Allemand Thomas Bach, président du Comité international olympique.
Tout cela demande des consultations, d'abord avec les 33 fédérations internationales. Nous aurons des conférences téléphoniques pour voir avec elles quelles peuvent être les options possibles. Nous devons aussi prendre en compte le calendrier sportif autour des Jeux Olympiques.
Et oui, et comment rajouter des JO dans un calendrier déjà chargé, notamment par le report aussi de l'Euro de foot l'an prochain, des JO au printemps ou à peu près aux mêmes dates estivales, c'est bien un défi sans précédent que doit relever le CIO.
Corinne Boulou du service des sports d'Europe 1. On jette un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. La parenthèse printanière ne va pas durer puisque vous nous l'annoncez, il y aura une dégradation du temps demain dans le sud du pays.
Oui, effectivement, Stéphane, avec dans la matinée un temps perturbé sur les Alpes, la vallée du Rhône, le massif central, les Pyrénées, le littoral méditerranéen et la Corse. Là, le ciel est très couvert demain avec sur les reliefs des flocons et du Languedoc-Roussillon même de la pluie. en début de journée. Ces pluies, elles vont s'étaler, s'étirer sur l'Occitanie et le Limousin dans l'après-midi. Attention également dans le sud, le Mistral se lève demain. Sur le reste du pays, le temps est ensoleillé avec un ciel très dégagé. Les températures, elles sont en dessous des moyennes de saison, hein, avec sur la moitié nord, le Grand Est, l'Auvergne et les Cévennes, des gelées matinales demain. Il va faire très froid. Moins 1 à moins 4 degrés au lever du jour, 0 à 4 degrés partout ailleurs et 5 à 6 degrés sur les littoraux atlantiques et méditerranéens. Dans l'après-midi, ça baisse encore. Seulement 8 degrés à Rodez, 10 à Carcassonne, Aurillac et Cherbourg, 12 pour Paris et 14 à Marseille.
La météo signée Anissa Haddadi. Europe 1. Dans un instant, comme tous les soirs, top à Wall Street. Vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant l'invité écho d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
C'est l'heure de faire le point sur la bourse avec vous, Claire Lemaître de boursier.com. Wall Street s'est montré plus hésitant ce soir après avoir signé une séance historique hier.
Oui, le Dow Jones gagne encore 2,39%, 21 200 points après un gain de 11% hier. En revanche, le Nasdaq cale, moins 0,45% à 7 384 points. Wall Street a perdu du terrain en fin de séance à cause de nouveaux accrochages concernant le plan de soutien à l'économie américaine. Il s'agit de cette enveloppe de 2000 milliards de dollars pour contrer les effets du coronavirus. Et le vote de ce plan, il est compliqué au Sénat. On a une hausse spectaculaire ce soir pour Boeing, plus 24%. L'avionneur américain devrait profiter de ce plan massif de soutien. Les compagnies aériennes aussi attendent un coup de pouce. American Airlines grimpe de 10%. Le pétrole est en hausse. Le brut léger américain progresse de 2,4%. Et puis l'euro gagne 0,7% à 1,0860 $.
Et à Paris, Claire, le CAC 40 signe lui une nouvelle séance de très forte hausse.
Oui, on avait déjà gagné plus de 8%. Hier, ça monte encore, plus 4,47% pour le CAC 40 à 4432 points au terme d'une journée marquée tout de même par beaucoup d'hésitations. Très forte hausse pour les valeurs bancaires. Les autorités européennes envisageraient d'accorder encore plus de souplesse aux banques pour faire face au coronavirus. Société Générale en profite pour bondir de 10%. BNP Paribas, plus 8%. Et Crédit Agricole, plus 3,8%.
Forte remontée aussi pour le groupe de mode SMCP.
Oui, SMCP, la maison mère des marques Sandro, Maje et Claudie Pierlot qui grimpe de près de 15% ce soir. Le groupe s'attend pourtant à un chiffre d'affaires en baisse d'un peu plus de 20% à cause de la pandémie. Du rouge en revanche pour ADP, moins 3,3%. L'aéroport d'Orly sera temporairement fermé à compter du 31 mars à cause du virus. Le trafic passager s'est écroulé bien sûr à cause de la pandémie. Les marchés retrouvent le moral partout en Europe. Londres reprend 4,4%, Francfort plus 1,8%, Madrid plus 3,3%, Milan plus 1,7%, Zurich plus 2,5% et à Paris, le CAC 40 gagne 4,5%, 4432 points.
Merci Claire Lemaître de boursier.com pour ce tour d'horizon complet. C'est l'heure de l'invité écho avec une question qui se pose au 9e jour du confinement, synonyme de fermeture des établissements scolaires. Comment se passe le télétravail dans l'éducation nationale? Pour y répondre, Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir Édouard Geffray, le directeur général de l'enseignement scolaire.
Bonsoir Édouard Geffray, un grand merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes le directeur général de l'enseignement scolaire. Allez, on va caricaturer, on va dire que vous êtes un peu le chef des profs. Et l'éducation nationale, comme toutes les grandes entreprises, est confrontée à une expérience totalement inédite. Hein. Le télétravail également dans l'éducation nationale existe. On est d'accord, ça n'était jamais arrivé chez vous.
Alors, c'est jamais arrivé, en tout cas à une échelle comme celle-là, jamais, effectivement. Et ça repose en fait hein, sur deux axes essentiels. Le premier, ce sont les professeurs. auquel je crois et on peut vraiment collectivement rendre hommage. Les gens redécouvrent à quel point le professeur est essentiel et c'est eux qui assurent la continuité pédagogique. Et puis la deuxième sont bien sûr des outils qu'on met à disposition de ces professeurs et de nos élèves. Il y a des outils numériques et puis il y a des outils télévisuels notamment, puisque il y a tout un tas de programmes qui permettent de faire l'école à la maison.
Est-ce que malgré tout, vous aviez imaginé des plans pour réussir ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ou par exemple, comme ça a été le cas pour Europe 1, vous avez tout basculé en 72 heures?
Alors, c'est un mélange des deux en fait. On avait imaginé l'hypothèse d'un blackout partiel, mais potentiellement assez massif. Très concrètement, à la suite du cyclone Irma, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce cyclone qui a fait qui a ravagé hein, une partie de notre territoire, le ministre avait demandé au CNED, donc le Centre National d'Enseignement à Distance, de concevoir une solution qui permettrait de faire l'école à la maison, et c'est ce qui aujourd'hui s'appelle Ma Classe à la Maison, cette fameuse plateforme qui permet aux professeurs de donner des cours par visioconférence, qui permet aux élèves d'accéder à des ressources pédagogiques, et qui donc vient appuyer finalement l'action du professeur. Et c'est parce qu'on l'avait pensé depuis ce temps-là que quand le coronavirus s'est déclaré, on a pu d'abord l'offrir aux élèves de l'enseignement français en Chine et ensuite qu'on a pu le massifier pour tous nos élèves avec des millions et des millions de capacités de connexion. En même temps, on a aussi, comme tout le monde, été obligé de s'adapter et nos professeurs en particulier se sont adaptés quasiment en quelques heures, hein, en un week-end, pour eux-mêmes repenser leur travail quotidien et les apprentissages au service des élèves. Et ça, évidemment, c'est une mutation culturelle énorme, mais à vrai dire, plutôt réussie.
Vous n'allez peut-être pas aimer le mot, hein, mais c'est compliqué le management dans le télétravail. Comment on manage des profs à distance ?
Alors effectivement, je ne sais pas si c'est le terme exact. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est simple pour personne. D'abord, c'est pas simple pour les parents. Ne savent pas trop s'ils sont censés être les pédagogues ou pas. Ensuite, c'est pas simple pour les professeurs, puisque par définition, ils n'ont pas leurs élèves en direct dans leur classe. Donc ce n'est pas simple, ça c'est sûr. En revanche, ce qu'il y a de vrai, c'est que la continuité pédagogique, si vous voulez, elle est quand même organisée d'abord au niveau de chaque école ou établissement. C'est-à-dire le professeur n'est pas tout seul, hein, c'est des équipes pédagogiques qui se mettent en ordre de bataille. Et ensuite, il y a un relais, j'allais dire, institutionnel avec des outils, des supports qui permettent d'avoir des trames communes, si vous voulez. Et donc, tout est affaire d'équilibre entre ce qui relève du commun et puis ce qui relève aussi de l'appréciation particulière du professeur, de sa relation particulière avec l'élève, des conditions dans lesquelles l'élève apprend, parce qu'on sait bien que c'est pas toutes les mêmes. Si vous êtes à trois frères et sœurs avec un seul appareil numérique, c'est pas la même chose que si vous êtes avec un appareil numérique chacun, enfin, ce genre de choses. Et donc là, il faut complètement épouser les réalités pour finalement permettre à l'élève de continuer à apprendre.
Il faut, j'imagine, beaucoup rassurer, hein.
Alors le retour en classe, d'abord il faudra beaucoup rassurer, il faut continuer à rassurer d'ores et déjà. Ce qui se passe actuellement n'est pas habituel et donc tout le monde doit apprendre et les jeunes comme nous hein, à s'adapter. Et ensuite effectivement le ministre a annoncé qu'il y aurait des possibilités de stages de remise à niveau notamment à la fin des grandes vacances, etc. Ce sont des choses qui existent déjà mais qu'on va massifier, ce qu'on appelle des stages de réussite. Et puis bien sûr au moment pile de la reprise, il y aura toute une dimension, j'allais dire, de remise à niveau pour s'assurer tout simplement que les fondamentaux sont là, que les apprentissages sont là, et puis pour construire la suite en toute sérénité.
Est-ce que le côté plus interactif hein, que vous vivez aujourd'hui dans vos cours va changer demain la façon d'enseigner ?
Alors, beaucoup plus interactif, oui et non, parce qu'il y a quand même, il y a énormément d'interactions dans une classe, et l'interaction est à la fois individuelle et collective, enfin avec chaque élève et avec le groupe classe, donc ça ne remplace pas ça. Le numérique n'a pas vocation à remplacer les professeurs, ça il faut être très clair. En revanche, c'est vrai que ça interroge évidemment tout un tas de pratiques, ça interroge le rapport aux outils, ça interroge aussi la dimension, j'allais dire, collectivement éducative de la nation. Hein. Vous savez qu'on a lancé un label Nation Apprenante, auquel le service public prend toute sa part. On a des émissions sur France Télévisions. Peut-être qu'en sortant de tout ça, on se dira qu'effectivement, cette dimension éducative, elle a vocation à trouver des relais, surtout pas un remplacement, mais peut-être des relais et puis à s'appuyer sur des outils qu'on utilise aujourd'hui largement, mais peut-être demain un peu plus, toujours à la main des professeurs.
Même si ce n'est pas de votre ressort direct, le gouvernement appelle hein, à une prime pour les salariés qui ont le courage chaque jour d'aller travailler. C'est le cas aussi de pas mal de profs. Est-ce qu'il faut une prime pour eux ?
Alors ça, c'est, ça relève pas de ma compétence, comme vous pouvez vous en douter. J'imagine que c'est une réflexion qui ne peut intervenir que dans un cadre en toute cause interministérielle. Donc voilà, je serais bien en peine de me prononcer. C'est malheureusement pas mon domaine, donc je voudrais m'en excuser.
Est-ce que vous avez une idée plus précise sur la date de la tenue des examens? Est-ce que ça peut tout chambouler?
Pour l'instant, j'allais dire, on ne sait pas quand la période de confinement va se terminer. Hein. Le ministre a clairement indiqué que l'objectif, c'était évidemment de permettre le déroulement le plus normal possible de tout ça. Ensuite, bah, en fonction de la façon dont les choses vont évoluer, on verra bien ce qu'on fait, mais je serai incapable de vous donner d'autres précisions à ce stade. Hein. Pour l'instant, la priorité, c'est d'assurer la continuité pédagogique.
Un grand merci à Édouard Geffray, directeur général de l'enseignement scolaire, d'avoir été notre invité ce soir sur Europe 1.
À demain, Emmanuel Dutheil. Dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens et de vos hebdomadaires. A tout de suite sur Europe 1.